Anatole France, le crime de Sylvestre Bonnard, deuxième partie, la fille de Clémentine, la fée. Quand je descendis de voiture à la station de Melun, la nuit répandait sa paix sur la campagne silencieuse. La terre chauffée tout le jour par un soleil pesant, par un gras soleil, comme disent les moissonneurs du Val-de-Vire, exhalait une odeur forte et chaude. Au ras du sol, des parfums d'herbe traînaient lourdement. Je secouais la poussière du wagon et respirais d'une poitrine allègre. Mon sac de voyage, que ma gouvernante avait bourré de linge et de menus objets de toilette, Munditiis, me pesait si peu dans la main que je l'agitais comme un écolier agile au sortir de la classe, le paquet sanglé de ses livres rudimentaires. Plût au ciel que je fusse encore un petit grimaud d'école. Mais il y a 50 ans bien sonnés que feu ma bonne mère, m'ayant préparé de ses mains une tartine de raisinée, l'a mis dans un panier dont elle me passe l'anse au bras, et me mena ainsi muni à la pension tenue par M. Douloir, entre cour et jardin, dans un angle du passage du commerce, bien connu des moineaux. L'énorme M. Douloir nous sourit avec une grâce enjouée, et il me caressa la joue pour mieux exprimer sans doute la tendresse que je lui inspirais spontanément. Mais quand ma mère eut traversé la cour, au milieu des moineaux qui s'envolaient devant elle, M. Douloir ne souriait plus. Il ne me témoignait plus aucune tendresse. Il paraissait au contraire me considérer comme un petit être fort incommode. Je reconnus depuis qu'il éprouvait les sentiments de cette nature à l'égard de tous ses élèves. Il nous distribuait les coups de férule avec une agilité qu'on n'eût point attendue de son épaisse corpulence. Mais sa première tendresse lui revenait chaque fois qu'il parlait à nos mères en notre présence, et alors, tout en vantant nos heureuses dispositions, il nous couvait d'un regard affectueux. Ah, ce fut un bien bon temps que celui que je passais sur les bancs de M. Douloir avec des petits camarades qui, comme moi, pleuraient et riaient de tout leur cœur du matin au soir. Après un demi-siècle, ces souvenirs remontent tout frais et clairs à la surface de mon âme, sous ce ciel étoilé qui n'a pas changé depuis et dont les clartés immuables et sereines verront sans faillir bien d'autres écoliers comme j'étais devenir des savants cathareux et chenus comme je suis. Étoile qui avait lui sur la tête légère ou pesante de tous mes ancêtres oubliés, c'est à votre clarté que je sens s'éveiller en moi un regret douloureux. Je voudrais avoir un fils qui vous voit encore quand je ne vous verrai plus, comme je l'aimerais. Ah, il serait ce fils, que dis-je, il aurait 20 ans, si vous l'eussiez voulu, Clémentine, vous dont les joues étaient si fraîches sous votre capote rose. Mais vous épousâtes un commis de banque, ce Noël Alexandre qui, depuis, gagne tant de millions. Je ne vous ai pas revu depuis votre mariage, Clémentine, et je vous vois toujours avec vos boucles blondes et votre capote rose. Un miroir. En vérité, je serais curieux d'observer la mine que j'ai sous mes mèches blanches en soupirant aux étoiles le nom de Clémentine. Toutefois, il ne convient pas d'achever dans une pensée de stérile ironie ce qui fut commencé avec un esprit de foi et d'amour. Clémentine, si par cette belle nuit votre nom m'est venu aux lèvres, que votre nom soit béni, et puissiez-vous, heureuse mère, heureuse aïeule, vous rassasier jusqu'au bout, au bras de votre riche époux, du bonheur que vous avez jugé en toute liberté de pouvoir goûter auprès du jeune et pauvre savant qui vous aimait. Si, quoique je ne le puisse imaginer, vos cheveux ont blanchi, Clémentine, portez dignement le trousseau de clés que Noël Alexandre vous a confié et enseignez à vos petits-enfants les vertus domestiques. La belle nuit, elle règne dans une noble langueur sur les hommes et les bêtes qu'elle a déliés du joug quotidien, et j'éprouve sa bienfaisante influence, bien que par une habitude de 60 ans je ne sente plus les choses que par les signes qu'il représente. Il n'y a pour moi dans le monde que des mots, tant je suis philologue. Chacun fait à sa manière le rêve de la vie. J'ai fait ce rêve dans ma bibliothèque, et quand mon heure sera venue de quitter ce monde, Dieu veuille me prendre sur mon échelle devant mes tablettes chargées de livres. Et c'est par Dieu bien lui. Bonjour, monsieur Sylvestre Bonnard. Où donc alliez-vous, battant la campagne de votre pied léger, tandis que je vous attendais devant la gare avec mon cabriolet? Vous m'aviez échappé à la sortie du train, je rentrais bredouille à l'usance. Donnez-moi votre sac et montez en voiture près de moi. Savez-vous bien qu'il y a d'ici au château 7 bons kilomètres? Mais qui me parle ainsi à plein poumon du haut de son cabriolet? Monsieur Paul de Gabry, neveu et héritier de monsieur Honoré de Gabry, pair de France en 1842, récemment décédé à Monaco. Et c'était précisément chez monsieur Paul de Gabry que je me rendais avec ma valise bouclée par ma gouvernante. Cet excellent jeune homme venait d'hériter, conjointement avec ses 2 beaux-frères, des biens de son oncle, qui, issu d'une très ancienne famille de robes, possédait dans son château de Luzance une bibliothèque riche en manuscrits, dont quelques-uns remontent au 14e siècle. C'était pour inventorier et cataloguer ces manuscrits que je venais à Luzance, sur la prière de M. Paul de Gabry, dont le père, galant homme et bibliophile distingué, avait entretenu avec moi de son vivant des relations parfaitement courtoises. À vrai dire, le fils n'a point hérité des nobles inclinations du père. Monsieur Paul s'est adonné au sport. Il est fort entendu en chevaux et en chiens, et je crois que de toutes les sciences propres à assouvir ou à tromper l'inépuisable curiosité des hommes, celles de l'écurie et du chenil sont les seules qu'il possède vraiment, pleinement. Je ne puis dire que je fus surpris de le rencontrer, puisque j'avais rendez-vous avec lui, mais j'avoue qu'entraîné par le cours naturel de mes pensées, j'avais perdu de vue le château de Luzance et ses hôtes, à ce point que l'appel d'un gentilhomme campagnard, au départ de la route qui déroulait devant moi, comme on dit, un bon ruban de queue, me frappa tout d'abord les oreilles, ainsi qu'un bruit insolite. J'ai lieu de craindre que ma physionomie n'ait trahi ma distraction incongrue par une certaine expression de stupidité qu'elle revêt dans la plupart des transactions sociales. Ma valise prit place dans le cabriolet et je suivis ma valise. Mon hôte me plut par sa franchise et sa simplicité. « Bon, je n'entends rien à vos vieux parchemins, me dit-il, mais vous trouverez chez nous à qui parler, sans compter le curé qui fait des livres et le médecin qui est fort aimable, bien que radical. Vous trouverez quelqu'un qui vous tiendra tête. C'est ma femme. Bon, elle n'est pas très instruite, mais il n'y a pas de chose, je crois, qu'elle ne devine. Je compte d'ailleurs vous garder assez longtemps pour vous faire rencontrer avec mademoiselle Jeanne, qui a des doigts de magicienne et une âme d'ange. Et cette demoiselle, dis-je si heureusement douée, est-elle de votre famille ? Non pas, me répondit M. Paul. Ah, c'est donc une amie, répondis-je assez niaisement. Elle est orpheline de père et de mère, reprit M. de Cabry, le regard tendu vers les oreilles de son cheval, qui battait du sabot la route bleuie par la lune. Son père nous a fait courir une grosse aventure et nous en sommes quittes avec lui pour beaucoup plus que la peur. Puis il secoua la tête et changea de propos. Il m'avertit de l'état d'abandon dans lequel je trouverais le parc et le château, restés absolument déserts depuis 32 ans. J'appris de lui que M. Honoré de Gabry, son oncle, était en son vivant fort mal avec les braconniers du pays, qu'il tirait comme des lapins. Un d'eux, paysan vindicatif, qui avait reçu en plein visage le plomb du seigneur, le guetta un soir derrière les arbres du mail et le manqua de peu car il lui brûla d'une balle le bout de l'oreille. Mon oncle, ajouta M. Paul, chercha à découvrir d'où venait le coup, mais il ne vit rien et il regagna le château sans hâter le pas. Le lendemain, ayant fait appeler son intendant, il lui donna l'ordre de clore le manoir et le parc et de n'y laisser entrer homme qui vive. Il défendit expressément qu'on touchât à rien, qu'on entretint ni qu'on réparât rien sur sa terre et dans ses murs jusqu'à son retour. Et il ajouta entre ses dents, comme dans la chanson, qu'il reviendrait à Pâques ou à la Trinité, et comme dans la chanson, la Trinité se passa sans qu'on le revît. Il est mort l'an passé à Monaco, et nous sommes entrés les premiers, mon beau-frère et moi, dans le château abandonné depuis 32 ans. Nous avons trouvé un marronnier au milieu de salons. Quant au parc, il faudrait pour le visiter qu'il y eût encore des allées. Mon compagnon se tut et l'on n'entendait plus que le trot régulier du cheval au milieu du bruissement des insectes dans les herbes. Des deux côtés de la route, les gerbes dressées dans les champs prenaient sous la clarté incertaine de la lune l'apparence de grandes femmes blanches agenouillées, et je m'abandonnais aux magnifiques enfantillages des séductions de la nuit. Ayant passé sous les épais ombrages du mail, nous tournâmes à angle droit et roulâmes sur une avenue seigneuriale au bout de laquelle le château m'apparut brusquement dans sa masse noire avec ses tours en poivrière. Nous suivîmes une sorte de chaussée qui donnait accès à la cour d'honneur et qui, jetée sur un fossé rempli d'eau courante, remplaçait sans doute un pont-levis détruit dès longtemps. La perte de ce pont-levis fut, je pense, la première humiliation que ce manoir guerrier eut à subir avant d'être réduit à l'aspect pacifique sous lequel il me reçut. Les étoiles se reflétaient dans l'eau sombre avec une merveilleuse netteté. Monsieur Paul me conduisit en hôte courtois jusqu'à ma chambre, située dans les combles au bout d'un long corridor, et, s'excusant sur l'heure tardive de ne pas me présenter tout de suite à sa femme, me souhaita le bonsoir. Ma chambre, peinte en blanc et tendue de perse, est empreinte de grâces galantes du XVIIIe siècle. Des cendres encore chaudes, qui me montrèrent par quel soin on avait dissipé l'humidité, emplissaient la cheminée dont la tablette supportait un buste en biscuit de la reine Marie-Antoinette. Sur le cadre blanc de la glace assombrie et tachée, deux crochets de cuivre, où s'étaient suspendues les châtelaines des dames d'autrefois, s'offraient à l'envi pour recevoir ma montre que j'eus soin de remonter. Car, contrairement aux maximes des Télémites, j'estime que l'homme est maître du temps, qui est la vie même, que lorsqu'il l'a divisée en heures, en minutes et en secondes, c'est-à-dire en parcelles proportionnées à la brièveté de l'existence humaine. Et je songeais que la vie ne nous semble courte que parce que nous la mesurons inconsidérément à nos folles espérances. Nous avons tous, comme le vieillard de la fable, une aile à ajouter à notre bâtiment. Je veux achever avant de mourir l'histoire des abbés de Saint-Germain-des-Prés. Le temps que Dieu accorde à chacun de nous est comme un tissu précieux que nous brodons de notre mieux. J'ai ouvré ma trame de toutes sortes d'illustrations philologiques. Ainsi allaient mes pensées, et en nouant mon foulard sur ma tête, l'idée du temps me ramena au passé et, pour la seconde fois dans un tour de cadran, je songeais à vous, Clémentine, pour vous bénir dans votre postérité, si vous en avez une, avant de souffler ma bougie et de m'endormir au chant des grenouilles. Pendant le déjeuner, j'eus maint occasion d'apprécier le goût, le tact et l'intelligence de Madame de Gabry, qui m'apprit que le château était hanté par des fantômes, et notamment par la Diane aux trois plis dans le dos, empoisonneuse de son vivant et âme en pleine désormais. Je ne puis vous dire combien elle sut donner d'esprit et de vie à cette vieille histoire de nourrice. Nous prîmes le café sur la terrasse, dont les balustres embrassés et arrachés à leurs lampes de pierre par une lierre vigoureuse, restaient pris entre les nœuds de la plante lascive, dans l'attitude éperdue des Athéniennes aux bras des centaures ravisseurs. Le château, en forme de chariot à quatre roues, flanqué d'une tourelle à chaque angle, avait, par suite de remaniements successifs, perdu tout caractère. C'était une ample et inestimable bâtisse, rien de plus. Il ne me parut pas avoir éprouvé de notables dommages pendant un abandon de 32 années, mais quand, conduit par Madame de Gabry, j'entrai dans le grand salon du rez-de-chaussée, je vis les planchers bombés, les plaintes pourries, les boiseries fendillées, les peintures des trumeaux tournées au noir et pendant aux trois quarts hors de leur châssis. Un marronnier ayant soulevé les lames du parquet avait grandi là, et il tournait vers la fenêtre sans vitre les panaches de ses larges feuilles. Bien que ce spectacle eût son charme, je ne le contemplais pas sans inquiétude, en songeant que la riche bibliothèque de M. Honoré de Gabry, installée dans une pièce voisine, était exposée depuis si longtemps à des influences délétères. Mais en considérant le jeune marronnier du salon, je ne pus m'empêcher d'admirer la vigueur magnifique de la nature et l'irrésistible force qui pousse tout germe à se développer dans la vie. Par contre, je m'attristais à songer que l'effort que nous faisons, nous autres savants, pour retenir et conserver les choses mortes est un pénible et vain effort. Tout ce qui a vécu est l'aliment nécessaire des nouvelles existences. L'arabe qui se bâtit une cabane avec les marbres des temples de Palmyre est plus philosophe que tous les conservateurs des musées de Londres, de Paris et de Munich. 11 août. Dieu soit loué. La bibliothèque située au Levant n'a pas éprouvé d'irréparables dommages. Or, la lourde rangée des vieux coutumiers in folio que les Loirs ont percés de part en part, les livres sont intacts dans leurs armoires grillées. J'ai passé toute la journée à classer des manuscrits. Le soleil entrait par les hautes fenêtres sans rideaux, et j'entendais, à travers mes lectures, parfois très intéressantes, les bourdons alourdis heurter pesamment les vitres, les boiseries craquées et les mouches ivres de lumière et de chaleur ronflaient des ailes en cercle sur ma tête. Vers 3 heures, leur bourdonnement fut tel que je levai la tête au-dessus du document fort précieux pour l'histoire de Melun au XIIIe siècle, et je me mis à considérer les mouvements concentriques de ces bestioles, ou bestions, comme dit La Fontaine, qui puisa cette forme dans le vieux fond populaire, d'où vient l'expression de tapisserie à bestions, c'est-à-dire à figurines. Je dus constater que la chaleur agit sur les ailes d'une mouche tout autrement que sur le cerveau d'un archiviste paléographe, car j'éprouvais une grande difficulté à penser et une torpeur assez agréable, dont je ne sortis que par un effort violent. La cloche, qui sonna le dîner, me surprit au milieu de mes travaux et je n'eus que le temps d'endosser ma houppelande neuve pour paraître décemment devant Madame de Gabry. Le repas, amplement servi, se prolongea de lui-même. J'ai un talent de dégustation qui va peut-être au-dessus du médiocre. Mon hôte, qui s'aperçut de mes connaissances, m'estima assez pour déboucher en mon honneur certaines bouteilles de Château Margaux. Je bus avec respect ce vin de grande race et de noble vertu, qui vient des coteaux du Bordelais et dont on ne peut louer assez le bouquet et le feu. Cette ardente rosée se répandit dans mes veines et m'anima d'un zèle juvénile. Assis sur la terrasse auprès de Madame de Gabory, dans le crépuscule qui répandait sur les arbres du parc une mélancolie charmante et donnait aux moindres choses un air de mystère, j'eus le plaisir d'exprimer à ma spirituelle hôtesse mes impressions avec une vivacité et une abondance tout à fait remarquables chez un homme dénué comme je le suis de toute imagination. Je lui dépeignis spontanément et sans m'aider d'aucun texte ancien la mélancolie douce du soir et la beauté de cette terre natale qui nous nourrit, non seulement de pain et de vin, mais encore d'idées, de sentiments et de croyances, et qui nous recevra tous dans son sein maternel comme des petits-enfants fatigués d'un long jour. « Monsieur, me dit cette aimable dame, vous voyez ces vieilles tours, ces arbres, ce ciel ? Comme les personnages des contes et des chansons populaires sont naturellement sortis de tout cela. Voici là-bas le sentier par lequel le petit chaperon rouge alla au bois cueillir des noisettes. Ce ciel changeant et toujours à demi voilé fut sillonné par les chars des fées. Et la tour du nord a pu cacher jadis sous son toit pointu la vieille filandière dont le fuseau piqua à la belle au bois dormant. Je songeais encore à ces gracieuses paroles, pendant que M. Paul me racontait, à travers les bouffées d'un cigare capiteux, je ne sais quel procès intenté par lui à la commune au sujet d'une prise d'eau. Madame de Gabory, sentant la fraîcheur du soir la gagner, frissonna sous le châle que son mari lui avait jeté sur les épaules, et nous quitta pour gagner sa chambre. Je résolus alors, au lieu de monter dans la mienne, de retourner dans la bibliothèque pour continuer l'examen des manuscrits. Malgré l'opposition de M. Paul, j'entrai dans ce que j'appellerais, en vieux langage, la librairie, et je me mis au travail à la lumière de la lampe. Après avoir lu 15 pages, évidemment écrites par un scribe ignorant et distrait, car j'eus quelque peine à en saisir le sens, je plongeai la main dans la poche béante de ma redingote pour en tirer ma tabatière, mais ce mouvement, si naturel et quasi instinctif, me coûta cette fois un peu d'effort et de fatigue. Toutefois, j'ouvris la boîte d'argent et j'en tirai quelques grains de la poudre odorante qui s'éparpillèrent le long du plastron de ma chemise sous mon nez frustré. Je suis certain que mon nez exprima son désappointement, car il est fort expressif. Il a trahi plusieurs fois mes plus intimes pensées, et notamment dans la bibliothèque publique de Coutances, où je découvris à la barbe de mon collègue Briou le cartulaire de Notre-Dame-des-Anges. Quelle ne fut pas ma joie! Mes yeux, petits et ternes sous leurs lunettes, n'en laissèrent rien voir. Mais à la seule vue de mon nez en pied de marmite, qui frémissait de joie et d'orgueil, Briou devina que j'avais fait une trouvaille. Il remarqua le volume que je tenais, nota l'endroit où j'allais le replacer, l'alla prendre sur mes talons, le copia en cachette et le publia à la hâte pour me jouer un bon tour. Mais son édition fourmille de fautes et j'eus la satisfaction d'y relever quelques grosses bévues. Bon, pour revenir au point où j'étais, je soupçonnais qu'une lourde somnolence pesait sur mon esprit. J'avais sous les yeux une charte dont chacun peut apprécier l'intérêt, quand j'aurais dit que mention y est faite d'un clapier vendu à Jean d'Estouville, prêtre, en 1312. Mais, bien que j'en sentisse alors toute l'importance, je n'y donnais pas l'attention qu'un tel document exigeait impérieusement. Mes yeux, quoi que je fisse, se tournait vers un côté de la table qui ne présentait aucun objet important au point de vue de l'érudition. Il y avait à cet endroit qu'un assez gros volume allemand, relié en peau de truie avec des clous de cuivre plat et d'épaisses nervures sur le dos. C'était un bel exemple de cette compilation recommandable seulement par les gravures sur bois dont elle est ornée et qui est si connue sous le nom de cosmographie de Münster. Le volume, dont les plats étaient légèrement entrebâillés, reposait sur sa tranche médiane. Je ne saurais dire depuis combien de temps mes regards étaient attachés sans cause sur cet in-folio du XVIe siècle, quand ils furent captivés par un spectacle tellement extraordinaire qu'un homme totalement dépourvu d'imagination comme je suis devait lui-même en être vivement frappé. Je vis tout à coup, sans m'être aperçu de sa venue, une petite personne assise sur le dos du livre, un genou replié et une jambe pendante, à peu près dans l'attitude que prennent sur leur cheval les Amazones d'Hyde Park ou du Bois de Boulogne. Elle était si petite que son pied ballant ne descendait pas jusqu'à la table, sur laquelle s'étalait en serpentant la queue de sa robe. Mais son visage et ses formes étaient d'une femme adulte. L'ampleur de son corsage et la rondeur de sa taille ne laissaient aucun doute à cet égard, même à un vieux savant comme moi. J'ajouterais, sans crainte de me tromper, qu'elle était fort belle et de mine fière, car mes études iconographiques m'ont habitué de longue date à reconnaître la pureté d'un style, d'un type et le caractère d'une physionomie. La figure de cette dame, assise si opinément sur le dos d'une cosmographie de Münster, exprimait une noblesse mélangée de mutinerie. Elle avait l'air d'une reine, mais d'une reine capricieuse. Et je jugeais, à la seule expression de son regard, qu'elle exerçait quelque part une grande autorité avec beaucoup de fantaisie. Sa bouche était impérieuse et ironique, et ses yeux bleus riaient d'une façon inquiétante sous des sourcils noirs, dont l'arc était très pur. J'ai toujours entendu dire que les sourcils noirs sont très séants ou blondes, et cette dame était très blonde. En somme, l'impression qu'elle donnait était celle de la grandeur. Il peut sembler étrange qu'une personne haute comme une bouteille et qui aurait disparu dans la poche de ma redingote, s'il n'eût pas été irrévérencieux de l'y mettre, donna précisément l'idée de la grandeur. Mais il y avait dans les proportions de la dame assise sur la cosmographie de Münster une sveltesse si fière, une harmonie si majestueuse, elle gardait une attitude à la fois si aisée et si noble, qu'elle me parut grande. Bien que mon encrier, qu'elle considérait avec une attention moqueuse, comme si elle eût pu lire par avance tous les mots qui devaient en sortir au bout de ma plume, fut pour elle un bassin profond où elle eût noirci jusqu'à la jarretière ses bas de soie rose à coin d'or, elle était grande, vous dis-je, et imposante dans son enjouement. Son costume, approprié à sa physionomie, était d'une extrême magnificence. Il consistait en une robe de brocart d'or et d'argent et en un manteau de velours en acara doublé de menu vert. La coiffure était une sorte de hennin à deux cornes que des perles d'un bel orient rendaient clair et lumineux comme le croissant de la lune. Sa petite main blanche tenait une baguette. Cette baguette attira mon attention d'une manière d'autant plus efficace que mes études archéologiques m'ont disposé à reconnaître avec quelque certitude les insignes par lesquels se distinguent les notables personnes de la légende et de l'histoire. Cette connaissance me vint en aide dans les conjonctures très singulières où je me trouvais. J'examinais la baguette qui me parut taillée dans une menue branche de coudrier. « C'est, me dis-je, une baguette de fée ?» Conséquemment, la femme qui la tient est une fée. Heureux de connaître la personne à qui j'avais affaire, J'essayais de rassembler mes idées pour lui faire un compliment respectueux. J'eusse éprouvé quelque satisfaction, je le confesse, à lui parler doctement du rôle de ses pareils, tant dans les races saxonnes et germaniques que dans l'accident latin. Mais une telle dissertation était dans ma pensée une façon ingénieuse de remercier cette dame d'être apparue à un vieil érudit, contrairement à l'usage constant de ses semblables, qui ne se montrent qu'aux enfants naïfs et aux villageois incultes. Pour être fée, on n'en est pas moins femme, me disais-je. Et puisque Madame Récamier, ainsi que je l'ouïs dire à Jean-Jacques Ampère, rougissait de plaisir quand les petits ramoneurs ouvraient de grands yeux pour la mieux voir, la dame surnaturelle qui est assise sur la cosmographie de Munster sera sans doute flattée d'entendre un érudit la traiter doctement comme une médaille, un sceau, une fibule ou un jeton. Mais cette entreprise, qui coûtait beaucoup à ma timidité, me devint totalement impossible quand je vis la dame de la cosmographie tirer vivement d'une aumônière qu'elle portait au côté des noisettes plus petites que je n'en vis jamais, en briser les coquilles contre ses dents et me les jeter au nez, tandis qu'elle croquait l'amande avec la gravité d'un enfant qui tète. En une telle conjoncture, je fis ce qu'exigeait la dignité de la science. Je me tus. Mais les coquilles m'ayant causé un chatouillement pénible, je portai la main à mon nez, et je constatai alors, à ma grande surprise, que mes lunettes en chevauchaient l'extrémité et que je voyais la dame à travers, mais par-dessus les verres, chose incompréhensible puisque mes yeux, usés sur les vieux textes, ne distinguent pas sans besicle un melon d'une carafe placée tous deux au bout de mon nez. Ce nez, remarquable par sa masse, sa forme et sa coloration, attira légitimement l'attention de la fée, car elle saisit ma plume d'oie, qui s'élevait comme un panache au-dessus de l'encrier, et elle promena sur mon nez les barbes de cette plume. J'eus parfois, en compagnie, l'occasion de me prêter aux espiègleries innocentes des jeunes demoiselles, qui, m'associant à leur jeu, m'offraient leurs joues à baiser à travers un dossier de chaise, ou m'invitaient à éteindre une bougie qu'elles élevaient tout à coup hors de la portée de mon souffle. Mais jusque-là, aucune personne du sexe ne m'avait soumis à des caprices aussi familiers que de m'agacer les narines avec les barbes de ma propre plume. Je me rappelais heureusement une maxime de feu mon grand-père qui avait coutume de dire que tout est permis aux dames et que tout ce qui vient d'elles est grâce et faveur. Je le reçus donc comme faveur et grâce, les coquilles des noisettes et les barbes de la plume. Et j'essayais de sourire, bien plus, je pris la parole. « Madame, dis-je avec une politesse digne, vous accordez l'honneur de votre visite non à un morveux ou à un rustre, mais bien à un bibliothécaire assez heureux pour vous connaître. » Et qui sait que jadis vous emmêliez dans les crèches les crins de la jument, buviez le lait dans les jattes écumeuses, couliez des graines à gratter dans le dos des aïeuls, faisiez pétiller l'âtre au nez des bonnes gens, et pour tout dire, mettiez le désordre et la gaieté dans la maison. Vous pouvez vous vanter de plus d'avoir le soir dans les bois fait les plus jolies peurs du monde aux couples attardés. Mais je vous croyais évanoui à jamais depuis 3 siècles au moins. Se peut-il, madame, qu'on vous voie en ce temps de chemin de fer et de télégraphe? Ma conscience, qui fut nourrie en son temps, ne sait pas votre histoire, et mon petit voisin, que sa bonne mouche encore, affirme que vous n'existez point. Qu'en dites-vous ? S'écria-t-elle d'une voix argentine en se campant dans sa petite taille royale d'une façon tout à fait cavalière et en fouettant comme un hippogriffe le dos de la cosmographie de Munster. Je ne sais, lui répondis-je en me frottant les yeux. Cette réponse, empreinte d'un scepticisme profondément scientifique, fit sur mon interlocutrice le plus déplorable effet. « Monsieur Sylvestre Bonnard, me dit-elle, vous n'êtes qu'un cuistre. Je m'en étais toujours douté. Le plus petit des marmots qui vont par les chemins avec un pan de chemise à la fente de leur culotte me connaît mieux que tous les gens à lunettes de vos instituts et de vos académies. Savoir n'est rien. Imaginer est tout. Rien n'existe que ce qu'on imagine. Je suis imaginaire. C'est exister, cela, je pense. On me rêve et je parais. Tout n'est que rêve. Et puisque personne ne rêve de vous, Sylvestre Bonnard, c'est vous qui n'existez pas. Je charme le monde, je suis partout, sur un rayon de lune, dans le frisson d'une source cachée, dans le feuillage mouvant qui chante, dans les blanches vapeurs qui montent chaque matin du creux des prairies, au milieu des bruyères roses, partout, partout. On me voit, on m'aime, on soupire, on frissonne sur la trace légère de mes pas qui font chanter les feuilles mortes. Je fais sourire les petits enfants, je donne de l'esprit aux plus épaisses nourrices. Penché sur les berceaux, je lutine, je console et j'endors. Et vous doutez que j'existe ? Sylvestre Bonnard, votre chaude douillette recouvre le cuir d'un âne. » Elle se tut. L'indignation gonflait ses fines narines. Et tandis que j'admirais, malgré mon dépit, la colère héroïque de cette petite personne, elle promena ma plume dans l'encrier comme un aviron dans un lac, et me la jeta au nez, le bec en avant. Je me frottai le visage que je sentis tout mouillé d'encre. Elle avait disparu. Ma lampe s'était éteinte. Un rayon de lune traversait la vitre et descendait sur la cosmographie de Münster. Un vent frais, qui s'était élevé sans que je m'en aperçusse, faisait voler plumes, papiers et pains à cacheter. Ma table était toute tachée d'encre. J'avais laissé ma fenêtre entr'ouverte pendant l'orage. Quelle imprudence ! J'ai écrit à ma gouvernante, comme je m'y étais engagé, que j'étais sain et sauf. Mais je me suis bien gardé de lui dire que j'eus un rhume de cerveau pour m'être endormi le soir dans la bibliothèque pendant que la fenêtre était ouverte. Car l'excellente femme ne m'eût pas plus ménagé les remontrances que les parlements au roi. « À votre âge, monsieur, m'eût-elle dit, être si peu raisonnable !» Elle est assez simple pour croire que la raison s'augmente avec les années. Je lui semble une exception à cet égard. N'ayant pas les mêmes motifs de taire mon aventure à madame de Gabry, je lui contais tout au long ma rêverie à laquelle elle prit un grand plaisir. « Votre vision, me dit-elle, est charmante, et il faut bien de l'esprit pour en avoir de pareilles. » « C'est donc, lui répondis-je, que j'ai de l'esprit quand je dors. »« Mais quand vous rêvez, reprit-elle, et vous rêvez toujours. » Je sais bien qu'en parlant ainsi, madame de Gabry n'avait pas d'autre idée que de me faire plaisir, mais cette seule pensée mérite toute ma reconnaissance, et c'est dans un esprit de gratitude et de douce remembrance que je la note en ce cahier et que je relirai jusqu'à ma mort et qui ne sera lu par personne autre que moi. J'employai les jours qui suivirent à achever l'inventaire des manuscrits de la bibliothèque de Lusance. Quelques mots confidentiels qui échappèrent à M. Paul de Gabry me causèrent une surprise pénible et me déterminèrent à conduire mon travail autrement que je ne l'avais commencé. J'appris par ces quelques mots que la fortune de M. Honoré de Gabry, mal gérée depuis longtemps et emportée en grande partie par la faillite d'un banquier dont j'ignore le nom, n'était transmise aux héritiers de l'ancien pair de France que sous la forme d'immeubles hypothéqués et de créances irrécouvrables. M. Paul, d'accord avec ses co-héritiers, était décidé à vendre la bibliothèque, et je dus rechercher les moyens d'opérer cette vente le plus avantageusement possible. Mais, étranger comme je le suis à tout négoce et trafic, je résolus de prendre conseil d'un libraire de mes amis. Je lui écrivis de me venir trouver à Luzance, et en attendant sa venue, je pris ma canne et mon chapeau et m'en allai visiter les églises du diocèse, dont quelques-unes renferment des inscriptions funéraires qui n'ont pas encore été relevées correctement. Je quittai donc mes hôtes et partis en pèlerinage. Explorant tout le jour les églises et les cimetières, visitant les curés et les tabellions de village, soupant à l'auberge avec les colporteurs et les marchands de bestiaux, couchant dans des draps parfumés de lavande, je goûtai pendant une semaine entière un plaisir calme et profond, à voir, tout en songeant aux morts, les vivants accomplir leur travail quotidien. Je ne fis, en ce qui me concerne, l'objet de mes recherches, que des découvertes médiocres qui me causèrent une joie modérée, et par cela même salubre et nullement fatigante. Je relevai quelques épitaphes intéressantes, et j'ajoutai à ce petit trésor plusieurs recettes de cuisine rustique dont un bon curé voulut bien me faire part. Ainsi enrichi, je retournai à Luzance et je traversai la cour d'honneur avec l'intime satisfaction d'un bourgeois qui rentre chez lui. C'est là un effet de la bonté de mes hôtes, et l'impression que je ressentis alors sur leur seuil prouve bien que tous les raisonnements, mieux que tous les raisonnements, l'excellence de leur hospitalité. J'entrai jusque dans le grand salon sans rencontrer personne, et le jeune marronnier qui étendait là ses grandes feuilles me fit l'effet d'un ami. Mais ce que je vis ensuite sur la console me causa une telle surprise que je rajustai à deux mains mes besicles sur mon nez et que je me tâtais pour me redonner une notion au moins superficielle de ma propre existence. Il me vint à l'esprit en une seconde une vingtaine d'idées dont la plus soutenable fut que j'étais devenu fou. Il me semblait impossible que ce que je voyais existât, et il m'était impossible de ne pas le voir comme une chose existante. Ce qui causait ma surprise reposait, comme je l'ai dit, sur la console que surmontait une glace plombée et piquée. Je m'aperçus dans cette glace, et je puis dire que j'ai vu une fois en ma vie l'image accomplie de ma stupéfaction. Mais je me donnais raison à moi-même, et je m'approuvais d'être stupéfait d'une chose stupéfiante. L'objet, que j'examinais avec un étonnement que la réflexion ne diminuait pas, s'imposait à mon examen dans une entière immobilité. La persistance et la fixité du phénomène excluaient toute idée d'hallucination. Je suis totalement exempt des affections nerveuses qui perturbent le sens de la vue. La cause en est généralement due à des désordres stomacaux et je suis pourvu, Dieu merci, d'un excellent estomac. D'ailleurs, les illusions de la vue sont accompagnées de circonstances particulières et anormales qui frappent les hallucinés eux-mêmes et leur inspirent une sorte d'effroi. Or, je n'éprouvais rien de semblable. Et l'objet que je voyais, bien qu'impossible en soi, m'apparaissait dans toutes les conditions de la réalité naturelle. Je remarquais qu'il avait trois dimensions et des couleurs et qu'il portait ombre. Ah, si je l'examinais, les larmes m'en vinrent aux yeux et je dus essuyer les verres de mes lunettes. Enfin, il fallut me rendre à l'évidence et constater que j'avais devant les yeux la fée La fée que j'avais rêvée l'autre soir dans la bibliothèque. C'était elle, vous dis-je. Elle avait encore son air de reine enfantine, son attitude souple et fière. Elle tenait dans la main sa baguette de coudrier. Elle portait le hennin à deux cornes et la queue de la robe de brocart serpentait autour de ses petits pieds. Même visage, même taille. C'est bien elle, et pour qu'on ne s'y trompe pas, elle était assise sur le dos d'un vieux et gros bouquin, tout semblable à la cosmographie de Münster. Son immobilité me rassurait à demi, et je craignis, en vérité, qu'elle ne tirât encore des noisettes de son aumônière pour m'en jeter les coquilles au visage. Je restais là, bras ballants et bouche béante, quand la voix musicale et riante de Madame de Gabry résonna à mon oreille. « Mais vous examinez votre fée, monsieur Bonnard, me dit mon hôtesse. Eh bien, la trouvez-vous ressemblante? » Cela fut vite dit, mais en l'entendant, j'eus le temps de reconnaître que ma fée était une statuette modelée en cire colorée, avec beaucoup de goût et de sentiment, par une main novice. Le phénomène ainsi réduit à une interprétation rationnelle ne laissait pas de me surprendre encore. Comment et par qui la dame de la cosmographie était-elle parvenue à une existence plastique? C'est ce qu'il me tardait d'apprendre. Me tournant vers Madame de Gabry, je m'aperçus qu'elle n'était pas seule. Une jeune fille vêtue de noir se tenait près d'elle. Elle avait de grands yeux intelligents, d'un gris aussi doux que le ciel de l'île de France, et d'une expression à la fois naïve et puissante. Au bout de ses bras un peu grêles, se tourmentaient deux mains déliées, mais rouges, comme il convient à des mains de jeune fille. Prise dans sa robe de mérinos, elle était tout d'un jet comme un jeune arbre, et sa grande bouche annonçait la franchise. Je ne puis dire combien cette enfant me plut tout d'abord. Elle n'était pas belle, mais les trois fossettes de ses joues et de son menton riaient, et toute sa personne, qui gardait la cocherie de l'innocence, avait je ne sais quoi de brave et de bon. Mes regards allaient de la statuette à la fillette, et je vis celle-ci rougir, mais franchement, largement, à flot. Eh bien, me dit mon hôtesse, qui, accoutumée à mes distractions, me faisait volontiers deux fois la même question. Est-ce bien là la dame qui, pour vous voir, entra par la fenêtre que vous aviez laissée ouverte? Elle fut bien effrontée, mais vous bien imprudent. Enfin, la reconnaissez-vous? Mais c'est elle, répondis-je, et je la revois sur cette console telle que je la vis sur la table de la bibliothèque. S'il en est ainsi, répondit Madame de Gabory, prenez-vous-en de cette ressemblance à vous d'abord, qui pour un homme dénué de toute imagination, comme vous dites être, savez peindre vos songes sous de vives couleurs, et à moi ensuite, qui retins et sus redire fidèlement votre rêve, et enfin et surtout à Mademoiselle Jeanne, que je vous présente, et qui a, sur mes indications précises, modeler la cire que vous voyez là. Madame de Gabry avait pris en parlant la main de la jeune fille, mais celle-ci s'était dégagée et fuyait déjà dans le parc d'un pas léger comme un vol. Oh, petite folle, lui cria Madame de Gabry, mais peut-on être sauvage à ce point? Venez qu'on vous gronde et qu'on vous marbrasse. Mais rien ne fit et l'effarouchée disparut dans le feuillage. Madame de Gabry s'assit dans le seul fauteuil qui restât au salon délabré. Je serais bien surprise, me dit-elle, si mon mari ne vous avait pas déjà parlé de Jeanne. Oh, nous l'aimons beaucoup et c'est une bonne enfant. Dites vrai, comment trouvez-vous sa statuette? Je répondis que c'était un ouvrage plein d'esprit et de goût, mais qu'il manquait à l'auteur l'étude et la pratique. Qu'au reste, j'étais touché au possible de ce que de jeunes doigts eussent brodé de la sorte, sur le canevas d'un bonhomme, et figuré d'une façon si brillante, les songeries d'un vieux radoteur. Si je vous demande ainsi votre avis, reprit gravement Madame de Gabory, c'est que Jeanne est une pauvre orpheline. Croyez-vous qu'elle puisse gagner sa vie à faire des statuettes comme celle-ci? Oh, pour cela, non, répondis-je, il n'y a pas trop à le regretter. Cette demoiselle est, dites-vous, affectueuse et tendre. Je vous en crois, et j'en crois son visage. La vie d'artiste a des entraînements qui font sortir de la règle et de la mesure les âmes généreuses. Cette jeune créature est pétrie d'une argile aimante. Gardez-la pour le foyer domestique. Là seulement est le vrai bien. Mais elle n'a pas de dot, me répondit Madame de Gabory. Puis, étendant le bras vers moi, elle ajouta: vous êtes notre ami, je puis tout vous dire. Le père de cet enfant était un banquier de nos amis. Il montait des affaires colossales, c'est ce qu'il a perdu. Il n'a survécu que peu de mois à sa faillite, dans laquelle, oh, Paul a dû vous le dire, la fortune de mon oncle a sombré aux trois quarts et la nôtre plus qu'à moitié. Nous l'avions connu à Monaco pendant l'hiver que nous passâmes auprès de mon oncle. Il avait l'esprit aventureux, mais si séduisant. Il se trompait lui-même avant de tromper les autres. C'est encore là, n'est-il pas vrai, la plus grande habileté? Alors nous y fûmes pris, mon oncle, mon mari et moi, et nous risquâmes, dans une affaire périlleuse, plus qu'il n'était raisonnable. Mais bah, comme dit Paul, puisque nous n'avons pas d'enfants. D'ailleurs, nous avons la satisfaction de savoir que l'ami auquel nous nous sommes confiés était un honnête homme. Vous devez connaître son nom, qu'on a vu tant dans les journaux et sur les affiches, Noël Alexandre. Donc, sa femme était fort aimable. Je ne l'ai connue que déjà passée, avec de jolis restes et un goût de faste et de représentation qui lui allait bien. Elle aimait un peu le tapage, mais elle montra beaucoup de courage et de dignité lors de la mort de son mari. Elle mourut un an après, lui laissant Jeanne seule au monde. Mais Clémentine ! M'écriai-je. En apprenant ce que je n'avais jamais imaginé, et ce dont la seule idée eût révolté toutes les énergies de mon âme, en apprenant que Clémentine n'était plus sur la terre, il se fit en moi comme un grand silence, et le sentiment qui me remplit tout entier fut non pas une douleur vive et aiguë, mais une tristesse calme et solennelle. J'éprouvais je ne sais quel allègement, et ma pensée s'éleva tout d'un coup à des hauteurs inconnues. « D'où vous êtes aujourd'hui, Clémentine ? » dis-je en moi-même. « Regardez ce cœur maintenant refroidi par l'âge, mais dont le sang bouillonna jadis pour vous. Et dites s'il ne se ranime pas à la pensée d'aimer ce qui reste de vous sur la terre. Tout passe, puisque vous avez passé, mais la vie est immortelle. C'est elle qu'il faut aimer dans ces figures sans cesse renouvelées. Le reste est jeu d'enfant, et je suis avec tous mes livres comme un petit garçon qui agite des osselets. Le but de la vie, c'est vous, Clémentine, qui me l'avez révélé. Madame de Gabory me tira de mes pensées en murmurant: cet enfant est pauvre. La fille de Clémentine est pauvre, dis-je à haute voix. Que cela est heureux. Je ne veux pas qu'un autre que moi la pourvoie et la dote. Non, la fille de Clémentine ne sera dotée que par moi. En m'approchant de Madame de Gabry, qui s'était levée, je lui pris la main droite Je baisai cette main, la posai sur mon bras et dis « Vous me conduirez sur la tombe de la veuve de Noël Alexandre. » Et j'entendis Madame de Gabory qui me disait « Mais pourquoi pleurez-vous ?